Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co. Afen & Co, la collégiale de la FEN, on en est au numéro 401. Et on poursuit notre cheminement sur les secteurs d'activité économique. Aujourd'hui, on va parler de la formation dans le monde de la santé. Quelles sont les spécificités? Est-ce qu'il y en a? Ou est-ce que c'est un lieu commun? Et on a la chance d'inviter quelqu'un qui fait partie des chroniqueurs de notre cursus. Et comme on donne une belle visibilité aux gens qui ont la gentillesse d'écrire leurs pensées, on a la chance d'inviter Flavien Albaraz. Bonjour Flavien.
Bonjour Stéphane.
Très bien Flavien. Eh ben, on va démarrer de suite. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans la formation dans le monde de la santé?
Alors, déjà, en fait, ce que je il n'y a pas, c'est pas la formation, en fait, c'est les formations. Il n'y a pas une formation en santé, il y a des formations en santé. Parce qu'au sein de ces formations en santé, déjà, il y a ce qu'on appelle les formations paramédicales. Et puis les formations médicales. Donc ça déjà, ça change quand même beaucoup de choses dans la manière de penser l'enseignement, de concevoir l'approche du métier. Donc il y a déjà cette première distinction entre formation paramédicale et formation médicale. Et ensuite,
Il y en a un qui est plus structuré que l'autre.
non, les deux sont autant structurées l'une que l'autre. La différence majeure qu'il peut y avoir entre les deux, c'est que les formations paramédicales, même si c'est en train de changer, on en parlera peut-être plus tard, mais les formations paramédicales sont très prescrites par des référentiels de compétences, d'activités et de formations qui sont publiés au journal officiel, par des décrets, des arrêtés. Donc c'est très prescrit, avec finalement peu de liberté laissée aux enseignants sur ce qu'ils vont pouvoir raconter, comment ils vont pouvoir évaluer. Là où les formations médicales sont historiquement universitarisées, universitaires, et donc comme la plupart des formations universitaires, c'est beaucoup moins prescrit. Il y a un référentiel national qui va guider les grandes stratégies à avoir, mais ensuite chaque université va pouvoir penser sa formation, par exemple en médecine, comme elle le voudra globalement. Donc les deux sont structurés, mais sur des logiques un peu différentes, très prescrits pour les formations paramédicales, beaucoup moins pour les formations médicales. Mais comme je le disais, ça c'est aussi en train de changer parce que les formations paramédicales s'universitarisent de plus en plus et donc sont de moins en moins prescrites également. Donc il y a un équilibre qui est en train de se faire entre ces deux mondes qui jusqu'à présent étaient quand même très, très séparés en fait, entre les formations médicales et paramédicales.
Ça, c'est pour la formation initiale.
Oui, ça c'est pour la formation initiale. Et ensuite, dans les formations paramédicales, parce que c'est ce que j'ai un peu commencé à dire, mais c'est quand même une spécificité des formations de la santé, c'est que on a de tous les niveaux, on a des formations paramédicales qui sont ce qu'on appelle ça comme ça, qui sont infra-bac, c'est-à-dire que le diplôme qui est décerné n'est pas équivalent au bac, mais même inférieur au bac. C'est par exemple le cas de la formation des ambulanciers. Ils sortent
D'accord.
avec un diplôme d'État, mais qui est d'un niveau inférieur au bac. On a des formations qui sont niveau bac, donc le diplôme qui est délivré à l'issue de la formation délivre un niveau bac. Et puis on a des formations qui sont post-bac et qui vont délivrer soit des niveaux licence, c'est le cas des infirmiers par exemple, ou des niveaux master, c'est le cas des infirmiers en pratique avancée, des infirmiers anesthésistes et d'autres. Donc on voit bien qu'il y a des formations en santé parce que il y a même des différences de niveau, et ces différences de niveau, elles vont quand même induire des choses dans l'approche pédagogique, dans l'accompagnement pédagogique qui va être proposé. Et pour les formations du coup post-bac, comme je le disais, il y en a qui sont déjà universitaires, il y en a qui sont en train de s'universitariser, c'est notamment le cas des infirmiers, on pourra peut-être en reparler plus tard. Et puis je dirais que l'autre grosse spécificité, alors c'est pas la seule des formations au monde, hein,
Bien sûr.
mais l'autre spécificité des formations en santé, c'est que elles ont une visée extrêmement professionnalisante.
Bien sûr.
On vise l'acquisition de compétences métiers, de compétences pratiques, opérationnelles. On est vraiment dans cette approche par compétences, comme on entend souvent parler, depuis très longtemps dans les formations en santé. Là où, par exemple, dans les formations plus universitaires, plus classiques, cette approche par compétences, elle n'est pas si vieille que ça, elle se développe de plus en plus. Et cette professionnalisation, elle est peut-être un peu moins présente que dans nos formations, y compris dans nos formations qui sont déjà universitaires, ou qui sont en train de s'universitariser, malgré tout, cette approche par compétences et cette professionnalisation, elle reste très très prégnante. Enfin, c'est vraiment la valeur centrale de nos formations, c'est cette professionnalisation. C'est d'ailleurs ce qui fait un peu grincer des dents quand certaines de nos formations s'universitarisent. Ça fait peur à beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes se disent ben, université égale, on va perdre la professionnalisation, on va perdre en côté pratique. Voilà, je dirais que c'est un peu les deux peut-être spécificités.
Est-ce que c'est en formation initiale principalement? Est-ce que la filière a des problèmes de recrutement? Parce qu'on voit qu'il y a des problèmes de débouchés, il y a une pénurie au final, mais
Ouais.
est-ce qu'au départ, il y en a un manque de
Alors,
vocation?
ça dépend des filières, ça dépend des formations. Il y a des filières où clairement on est en pénurie de recrutement dès l'entrée en formation. Bah, c'est notamment le cas de la filière ambulancière, où c'est rare. Alors, je parle de mes expériences et des écoles que je connais, mais c'est quand même aussi au niveau national, hein. C'est assez rare que les formations fassent le plein, par rapport aux agréments régionaux qui nous disent, par exemple, que vous pouvez faire, des promotions de 40, je dis n'importe quoi. C'est assez rare que les promotions soient à 40. Donc, c'est le cas chez les ambulanciers, chez les aides-soignants de plus en plus. C'est assez récent chez les aides-soignants, les promotions étaient plutôt pleines. Et là, depuis quelques années, c'est de moins en moins le cas. Donc, il y a des formations qui ne font pas le plein dès le départ. Et puis, il y a des formations qui font plein au départ, à l'entrée en formation, et puis qui, en cours de route, il y a de plus en plus d'abandons de formation. Et donc, au bout de la formation, bah, en fait, la promo n'est plus pleine du tout, et donc, on ne diplôme pas. Et puis, bon, bah, sans compter ceux qui vont au bout, mais qui n'obtiennent pas leur diplôme parce qu'ils n'ont pas pu justifier des compétences nécessaires, bah, ça fait qu'au final, il y a quand même beaucoup de formations où on ne sort pas autant de diplômés qu'on devrait, si, du point de vue de nos agréments et des attentes nationales. Si on prend l'exemple les infirmiers, les promotions sont pleines à craquer. Ça, il n'y a pas de problème de recrutement initialement. Il peut y avoir jusqu'à 8 000 demandes sur Parcoursup pour 200 places en formation. Donc,
D'accord, ouais, c'est énorme.
aucun problème de recrutement, mais c'est énorme. C'est une des formations, si ce n'est la formation la plus demandée sur Parcoursup tous les ans. Elle est toujours en général en première ou en deuxième position des formations les plus demandées sur Parcoursup. Mais par contre, il y a un taux d'abandon de plus en plus important. Au cours de la formation qui dure 3 ans pour un infirmier et qui fait que à la fin des 3 ans, bah, il n'y a pas, par exemple, 250 diplômés alors qu'il y avait 250 personnes à l'entrée en formation, mais il n'y en a que 100 ou 120 ou 130
D'accord.
parce que les abandons plus ceux qui ne sont pas diplômés parce qu'ils n'ont pas obtenu les compétences nécessaires. Donc voilà,
Est-ce que
soit.
face à ces pénuries, on entend parfois, certains disent qu'il y a une baisse du niveau, c'est-à-dire qu'on est moins exigeant?
Alors, on constate une baisse de niveau, ça c'est sûr. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est moins exigeant? Je crois pas, parce que par contre, les formations, soit pour y rentrer, il y a des sélections avec des dossiers et des oraux, c'est le cas de certaines formations, par exemple ambulancier, aide-soignant, etc. Soit c'est Parcoursup, donc c'est le cas par exemple de l'IFSI. Mais si je prends l'exemple de Parcoursup, le niveau d'exigence il est quand même très élevé. Le nombre de justificatifs, d'éléments de preuve que l'on demande aux néo-bacheliers est quand même conséquent. Donc le niveau d'exigence, je ne crois pas qu'on y est touché.
D'accord.
Par contre, si je parle par exemple des sélections du côté des ambulanciers, donc on a des sélections avec un dossier qui est évalué avec une note et un oral qui est évalué avec une note. Le niveau d'exigence n'a pas changé, mais forcément on a une pression sélective qui est pas très importante parce que par exemple pour 30 places, on va avoir 20 dossiers. Donc dès la sélection, déjà on a une pression sélective qui est négative. Donc de fait, même si on a moins d'exigences, vont être sélectionnés des gens qui ont des moins bonnes notes qu'à une époque. À une époque, pour être sélectionné, il fallait avoir au moins, par exemple, 17 sur 20. Je dis n'importe quoi, mais globalement, c'est ça. Désormais, avec un 12 sur 20, on va pouvoir être sélectionné parce que la pression sélective de base est moins importante. Donc, le niveau d'exigence n'a pas, je crois pas que le niveau d'exigence ait changé, mais de fait, on a un niveau à l'entrée en formation qui est sans doute moins élevé qu'à une époque parce que la pression sélective est moins importante. Voilà, c'est comme ça que j'expliquerai les choses. Mais on constate effectivement une baisse de niveau en formation qui parfois est compensée pour la plupart des élèves ou des étudiants, est compensée grâce à la formation qui est dispensée. Mais parfois, la formation ne parvient pas à compenser ce niveau qui était déjà trop bas en fait à l'entrée en formation.
Est-ce que pour la formation professionnelle, une fois que les gens sont formés, est-ce qu'ils reviennent se former?
Quand même, oui, parce qu'en fait, nous, dans la santé, alors je pourrais pas te donner les statistiques exactes, je les ai pas en tête, mais il y a quand même un taux important de professionnels de santé qui travaillent dans le public. Et donc, le public respecte quand même plutôt très bien l'obligation de former tout au long de la vie les agences, ce qui est parfois un peu plus compliqué dans le privé parce que bah, des petites structures vont avoir plus de mal à libérer. Donc, honnêtement, oui, je dirais que quand même les professionnels de santé ont une capacité de continuer à se former tout au long de la vie par de la formation continue qui n'est pas négligeable. Après, il faut qu'ils s'en saisissent, bien sûr, il faut qu'ils fassent des
Bien sûr.
demandes, mais ils ont cette capacité. Je nuancerai juste un tout petit peu, puisqu'il y a quand même un absentéisme assez important dans les services, soit parce que des arrêts maladie, soit parce qu'effectivement il y a des difficultés de recrutement. Cet absentéisme fait que les responsables de services ont un peu plus de mal à libérer les agents, parce qu'il faut quand même qu'il y ait du monde au pied des lits. Donc ça fait que bon, je pense notamment à la période Covid, mais encore aujourd'hui avec les difficultés de recrutement, ça fait que, alors même que la formation continue est proposée, parfois les cadres sont contraints d'annuler la présentation de l'agent en formation continue parce qu'il a fallu combler un trou dans le planning. Mais globalement, on a cette chance, encore aujourd'hui dans le public, de pouvoir se former assez facilement. J'en suis un très bon exemple puisque moi, ça fait. J'ai été diplômé infirmier parce qu'à la base, je suis infirmier. J'ai été diplômé en 2014. Il n'y a pas une année depuis 2014 où je n'ai pas eu au moins une formation, si ce n'est plus certaines
Ouais, très
années,
bien, ouais. C'est énorme.
pour ce qui est des formations courtes en tout cas. Et ensuite, depuis 2014, j'ai pu bénéficier d'une prise en charge financière pour passer mon diplôme de cadre de santé, donc une formation d'un an, avec une libération à 100%, un maintien de salaire et une prise en charge complète du coût de la formation. Et là, on va me financer l'année prochaine un master 2. Donc voilà, en 14 ans, en 15, voilà, j'ai eu un nombre de formations courtes ou importantes,
Et
pas
t'es pas un
négligeables.
cas exceptionnel, c'est
Je
des
suis pas
choses
un cas
qu'on...
exceptionnel,
Ouais, d'accord.
vraiment pas. Alors, sur le fait que je fasse une ou plusieurs formations par an, ça tient du fait que j'en demande beaucoup, et ce n'est pas le cas
Ouais,
de tout le
bien
monde. Tout
sûr.
le monde n'en demande pas beaucoup, donc ça, c'est mon cas particulier. Mais sur la possibilité de se faire financer des formations même très structurantes et longues, sur de la montée même en niveau de diplôme, tous les ans, il y a un nombre très important d'infirmiers qui obtiennent des financements pour devenir cadres de santé, d'aides-soignants qui obtiennent des financements pour devenir infirmiers, parce qu'il y a des budgets qui sont dédiés à ça. Et que si on a un dossier solide d'un point de vue RH, c'est-à-dire qu'on a fait satisfaction, que d'un point de vue de notre manière à servir, on fait satisfaction, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas financé. Donc là-dessus, vraiment, j'aurais quand même peu de choses négatives à dire sur ce sujet. Après, il y a la question de la veille quotidienne, par contre. C'est-à-dire, au-delà de la formation continue une fois ou deux fois par an, nos métiers évoluent tellement
Est-ce
rapidement.
qu'on t'apprend dans tes parcours, est-ce qu'on t'apprend à faire de la veille ou à être autonome?
Pas tellement. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, je trouve que pas tellement.
D'accord.
C'était un peu justement un espace pas très développé de nos formations en santé. C'est cet espace justement de la veille, de l'auto-formation, de la curation.
Bien sûr.
Ça, pas tellement. Un petit peu avec des yeux à l'IFSI, notamment autour de l'UE Recherche, ils ont quand même des enseignements sur la lecture critique d'articles,
D'accord.
des enseignements sur les méthodes de travail, comment chercher de l'information. Donc, il n'y a pas zéro élément, mais je trouve que c'est pas très structurant. C'est un peu mélangé autour de plein d'autres choses et il n'y a pas vraiment une acculturation à cette veille quotidienne, à la lecture de textes réglementaires, comme je le disais, à la curation de contenu,
Ben oui, c'est énorme
c'est
parce que
pas
tout
très
bouge.
structuré. Bah oui. Et puis il faut du temps pour le faire.
Ben oui,
Quand
exactement.
bien même on les formait de manière plus structurante, nos futurs professionnels de santé, après, est-ce qu'ils auraient le temps dans leurs horaires de travail, parce qu'il ne s'agit pas de leur demander de le faire une fois qu'ils ont déjà fait leurs 12 heures de travail. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'ils aient du temps pour le faire, c'est encore une autre question. Mais ce serait indispensable parce que le métier d'infirmier, par exemple, il évolue constamment, constamment, constamment. Il y a des recherches tous les jours. Et donc, une formation par an ne peut pas suffire à être
Bien sûr.
au goût de toutes les nouveautés de la spécialité dans laquelle on travaille. Donc là-dessus, il y a un vrai enjeu qui, je pense, va commencer à être comblé par la réforme de la formation infirmière qui est en cours, là, qui va s'appliquer à partir de la rentrée 2026, en septembre.
D'accord.
met quand même l'accent sur le leadership infirmier, sur l'autonomisation, sur la recherche. Donc je crois que c'est en train d'être pensé de manière institutionnelle,
Alors
systémique.
justement, Flavien Albaraz, quels sont les grands chantiers de la formation
Ouais.
que la formation rencontre par rapport à tout ce qui bouge, toutes les nouvelles technologies, tout ça? Quels sont les
Ouais.
chantiers qui sont aussi opératoires?
Alors, il y en a pas mal pour le coup.
Ah, très bien.
Alors, comme je viens de le dire, déjà, il y a plusieurs formations qui sont en cours de réingénierie, de redéfinition du métier, des activités, des compétences et donc de la formation. C'est le cas pour les infirmiers, donc avec des nouveaux référentiels qui s'appliqueront à la rentrée 2026. C'est le cas pour les infirmières de puériculture qui n'ont pas vu leur texte bouger depuis, je n'ai pas exactement la date exacte, mais au moins 1992.
Ah oui, quand même.
Ouais.
Ouais.
C'est le cas des cadres de santé avec des projets en cours beaucoup moins avancés, mais pareil, avec des textes qui datent de peut-être 95, je dirais. Donc, il y a des chantiers. Et donc, bah, ces chantiers sont l'occasion pour le ministère de la Santé ou le ministère de l'Enseignement supérieur ou les deux conjointement d'intégrer dans les programmes des enseignements, notamment relatifs au numérique en santé, à la e-santé, comme on entend de plus en
D'accord,
plus
ouais.
parler, bah, qui est de plus en plus présente dans les pratiques quotidiennes des soignants, mais qui n'était
Alors,
pas du tout.
qu'est-ce que ça recouvre là pour tous ceux qui connaissent pas la
Ouais.
e-santé?
Alors, la e-santé ou santé
La
numérique, si on veut
e-santé?
le dire en français, ça recouvre bah, tous les usages numériques que les soignants vont devoir, même plutôt, intégrer à leur pratique. Par exemple, pour être très concret, un aide-soignant ou un infirmier ou même un médecin, au quotidien, il doit tracer un certain nombre de ses activités dans des logiciels, ce qu'on appelle les dossiers patients
D'accord.
informatisés, les DPI, dossiers patients informatisés, qui sont des logiciels sécurisés, mais dans lesquels on va tracer des informations relatives à l'état de santé, relatives aux examens, relatives aux activités de soins dont le patient a bénéficié aujourd'hui, demain, après-demain. C'est des logiciels qui permettent de faire des transmissions entre membres de l'équipe. Et là, il y a des enjeux énormes de sécurité des données, puisqu'on est
Bien
sur des
sûr.
données extrêmement sensibles de santé. Et donc, il faut que les personnels soient sensibilisés et formés à ça. C'est quoi une donnée de santé? Pourquoi est-ce qu'elle est sensible? Comment je fais pour la sécuriser? Pourquoi est-ce qu'il faut que je trace dans un dossier patient? Comment est-ce qu'il faut que je trace? Comment est-ce qu'il faut que je signe? Pourquoi est-ce qu'il faut pas que je laisse, c'est des choses toutes bêtes, hein, mais pourquoi est-ce qu'il faut pas que je laisse ouverte ma session? L'ordinateur, il y a un ordinateur pour tout le service, j'ai ouvert ma session, je vais faire un soin, je l'ai laissé ouverte, bah, le risque c'est que j'ai un autre soignant, sans le faire exprès,
Exactement.
mais qui va tracer des soins à mon nom, à moi. Et si derrière il y a un couac, bah, c'est moi qu'on ira chercher parce
Bien
que
sûr.
c'est mon nom qui a été tracé. Donc c'est des enjeux de ce type-là. Après, la santé, c'est aussi des outils qui vont permettre de mieux articuler la relation entre le soin à l'hôpital et le soin en ville.
Oui, effectivement.
J'ai eu un début de prise en charge à l'hôpital pour une opération, et puis ensuite je suis suivi par une infirmière à domicile, mon médecin traitant et tout un tas de spécialistes. Comment est-ce que des logiciels vont pouvoir permettre de mettre en relation tout ce beau monde de façon beaucoup plus fluide, mais toujours de façon sécurisée? De la même manière, on ne va pas utiliser WhatsApp ou ce genre d'outils. Donc la e-santé, c'est aussi ça. Voilà, grosso modo, c'est un peu tous ces enjeux-là en fait de sécurisation des données de santé et d'usage du numérique pour faciliter le travail, le rendre plus souple, notamment dans cette articulation ville-hôpital.
Et là où c'est hyper intéressant, c'est que la France a une belle filière de e-santé. Alors que tous les pays ne sont pas dotés, mais avec WeSings, enfin, il y a énormément de grosses structures qui font de très très belles choses, très pointues. Et donc c'est intéressant d'avoir la synergie entre les usagers et ceux qui produisent ces produits.
Exactement. Exactement. On a aussi l'Agence du numérique en santé, hein, l'ANS, hein, qui est une énorme
Absolument.
agence nationale qui fournit, enfin, qui produit quantité de documents, de ressources, de logiciels. Et c'est d'ailleurs l'Agence du numérique en santé qui met à notre disposition la plateforme d'enseignement du numérique en santé pour nos apprenants en santé. Donc, ça fait quelques années qu'on a l'obligation d'intégrer dans nos programmes ce qui s'appelle le référentiel socle de compétences
D'accord.
numériques en santé, qui est un référentiel national que l'on doit appliquer tel quel, qui peut aller jusqu'à 28 heures en fonction de formation, en fonction de la formation. C'est un peu moins pour les formations bac ou infra-bac, mais globalement, c'est dans les environs de 20 à 30 heures de formation. C'est essentiellement de la formation en e-learning, mais il y a aussi de la formation en présentiel. Et en tout cas, toute la partie e-learning L'ANS, l'Agence numérique de santé, nous propose gratuitement, au niveau national, une plateforme qui permet à nos élèves d'accéder au contenu d'enseignement sur le numérique en santé, donc tous les enjeux de sécurité, de traçabilité, de compétences, comment je me sers d'un logiciel, comment je m'identifie, etc. Donc c'est vrai que tu as raison de préciser qu'on a la chance d'être dans un pays où on a déjà les reins solides sur ces questions-là.
Absolument. Et on est très bien structuré en data de santé.
Clairement.
Donc c'est quelque chose qui, on dit souvent qu'on est les meilleurs au monde parce qu'on est très centralisé et très bien structuré. Alors que même les États-Unis, qui ont plus de volume, bien évidemment, étant donné qu'ils sont émiettés, n'ont pas une qualité de data qui soit équivalente. Donc on a vraiment des bases avec des choses intéressantes à faire. Est-ce que justement dans ces formations-là, alors on en parle souvent de la médecine chirurgicale, est-ce qu'on utilise des robots, des réalités virtuelles?
Alors, des robots, j'irai pas jusque-là. Par contre, on utilise ce qu'on appelle, nous, des mannequins de simulation qui peuvent être soit basse fidélité, soit moyenne fidélité, soit haute fidélité. Le mannequin basse fidélité, ça va être un mannequin complètement inerte, mais qui va être très
D'accord.
utile pour faire de l'entraînement au massage cardiaque, par exemple. Le mannequin moyenne fidélité, voire haute fidélité, il va permettre, on va pouvoir le faire parler, il va pouvoir réagir. On va pouvoir le brancher à un scope et on va pouvoir, avec des ordinateurs qui sont dans une salle de contrôle, on va pouvoir faire varier les paramètres vitaux, etc. Et donc, ça va nous faire une simulation beaucoup plus immersive et réaliste. Donc, ça, on. Alors, tous les instituts de formation n'en sont pas équipés parce que ça a un coût.
Bien sûr.
Mais quand même, c'est de plus en plus le cas. Et du coup, effectivement, ça fait le lien avec dans les pratiques de formation, la simulation. Dans les formations en santé, c'est une des pratiques qui se développe le plus, qui demande beaucoup de moyens en ressources humaines et de moyens matériels par contre. Donc, ça a un coût qui est non négligeable. Donc, tout le monde ne peut pas le faire, mais quand c'est fait, c'est vraiment hyper précieux. Donc, on a potentiellement donc des mannequins. Après, sur la réalité virtuelle, c'est pas encore très développé sur les formations paramédicales. Par contre, c'est en train de se développer énormément sur les formations médicales. Je pense notamment à sage-femme. Et médecine. Effectivement,
D'accord.
comme tu le disais, notamment sur tout ce qui va être bloc opératoire.
Eh oui, bien sûr.
Sur les formations paramédicales, ce n'est pas encore très développé. Alors, y a plein de choses qui existent. Il y a notamment des sociétés qui se sont montées exclusivement sur ce marché-là, sur le marché de la simulation en santé pour les formations paramédicales. Donc, il y a plein de choses qui existent qui permettraient de le faire, mais pareil, c'est un coût assez exorbitant. Il
Bien
faut se
sûr.
procurer les casques. Et je pense aux infirmiers, les promos d'infirmiers. Dans certaines écoles, c'est jusqu'à 200, 250 étudiants par promotion. Il faut s'équiper en casque, hein, et des casques de
Bien
réalité
sûr.
virtuelle. C'est coûteux, il faut l'ordinateur qui va avec. Et puis ensuite, il faut l'expérience virtuelle qui va aller
Bien
avec.
sûr.
L'expérience virtuelle a un coût aussi. Donc, il y a, comme tu disais tout à l'heure, la structure existe en France. On a plein de structures qui permettent de le faire. Ce qui bloque encore aujourd'hui, c'est les coûts que ça implique et l'organisation dans le planning. Mais ça existe, mais c'est plus développé côté quand même médical que paramédical pour l'instant.
Quand tu parles des sages-femmes, par exemple, c'est pas la partie pratique, parce que
Non,
finalement, ils touchent pas. Voilà.
ça va plutôt être sur de la. Sur de la nécessité d'être dans une immersion la plus totale, et c'est vrai que la réalité virtuelle le permet, plutôt sur de la réaction, en fait,
Ah, d'accord.
voir comment
Ah,
l'étudiant réagit en situation
ouais.
d'urgence, accouchement inopiné, ce genre de situation, ça va plutôt permettre ça, qu'effectivement, que de la pratique où là, il va falloir du robot, il va falloir un couplage réalité virtuelle, et puis un robot avec des retours haptiques assez
Oui,
puissants.
absolument, bien sûr.
Donc, ça va plutôt être sur de la réaction, mais c'est la même chose côté infirmier. Hein, la plupart des ou paramédical, pour pas citer que les infirmiers, mais la plupart des expériences virtuelles qui existent sont plutôt orientées sur le relationnel, l'immersion et les réactions en fait
Ah, c'est bien ça.
que sur la technique en elle-même où c'est plus compliqué effectivement. Mais il y a des choses super qui existent, hein, mais c'est toujours le problème de l'accessibilité, du financement, en fait. Donc, les régions, donnent beaucoup de coups de main, donc elles financent quand elles peuvent. Donc, il y a beaucoup d'appels à manifestations d'intérêt qui permettent d'obtenir des financements. Mais.
Mais c'est vrai ce que tu disais, à la fois quand tu as 200 casques à acheter, tu les achètes, puis 2 ans après, ils sont obsolètes.
Exactement.
Donc,
Bah,
il faut les racheter, quoi. Donc, ça coûte un
exactement.
bras, quoi. Hein.
Exactement. Nous, pour tout te dire, dans l'établissement dans lequel je travaille, on s'était procuré, donc il y a maintenant 5 ans, quelque chose comme ça, on s'était procuré des casques. Donc, on avait acheté 5 casques, 5 ordinateurs de gaming pour les faire
Oui,
tourner,
bien sûr.
et puis un abonnement à un logiciel qui permettait de nous-mêmes créer nos propres
Ah, très bien ça.
voilà nos propres expériences virtuelles avec une caméra 360 degrés et puis on a eu une formation mais en fait bon, on avait été que deux à être formés donc déjà c'était trop peu pour voilà parce qu'après il faut du temps
Bien
pour
sûr.
faire ce travail de montage des séquences et puis ben comme et puis ben finalement aujourd'hui donc ça fait 5 ans ben, nos casques ils sont plus utilisables parce qu'ils sont obsolètes en fait ils tournent plus sur les dernières versions de Windows
Ah
Et donc, ils ont très peu servi au final, un petit peu, mais très peu, et ils sont déjà obsolètes. Donc, c'est pas optimal, compte tenu des contraintes budgétaires, malgré tout, qu'on rencontre dans les formations en santé et des contraintes en ressources humaines aussi.
bien sûr. Donc c'est pas évident. Alors si
Non,
on
c'est
parle
pas évident.
des innovations, une innovation majeure, l'IA, est-ce
Ouais.
que l'IA change quelque chose?
Elle change plein de choses. Alors, il y a mon opinion personnelle et puis l'expérience
Bien
qui
sûr.
parle là, hein, mais elle change plein de choses, aussi bien dans la posture de l'enseignant de manière générale que dans la relation pédagogique entre l'enseignant et l'étudiant. Parce que, alors, c'était déjà le cas avec le numérique de manière générale, hein, avec Internet, l'étudiant, ça fait longtemps qu'il a plus besoin de l'enseignant pour trouver l'information. Ça fait longtemps que c'est le cas. Donc ça, déjà, ça a changé quand même
Même
le.
pire, il challenge l'enseignant
Exactement.
quand il dit une bêtise. Bah,
Ah
exactement.
ben ça, je l'ai vécu. Et ça, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Monsieur, c'est pas à jour là ce que vous nous racontez. Entre-temps, il est sorti un nouveau protocole et puis devant tout le monde, hein, on est bien
Ouais,
d'accord. On les
exactement.
voit faire en général. Hein. Ils sortent le téléphone. On voit à leur tête que ce que tu as raconté, ils sont perplexes. Ils sont perplexes. Ils sortent le téléphone, tac, 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 et là, ils lèvent la main et tu sais que ça va te tomber dessus. Mais bon, ça, moi, je trouve ça super pour le coup,
Ah
parce
oui,
que j'ai eu
exactement, tout à fait.
aucun problème avec le fait qu'un étudiant me challenge. Et au contraire, je trouve ça, dans la dynamique de classe, je trouve ça génial. Ça veut dire qu'il écoute
Ouais, exactement,
et qu'il est
déjà,
interpellé par ce que je dis. Donc, ça veut dire quand même qu'il a. Donc, c'est super. Mais donc, et ça, c'est pas l'IA qui l'a. C'était déjà
ce
le
qui
cas avant.
amène sur les enseignants des pratiques. Il y en a certains qui vont vérifier juste avant sur Twitter s'il n'y a pas des choses nouvelles qui viennent de sortir
Tout à
pour pas
fait.
se faire avoir.
Tout
Absolument.
à fait, tout à fait. Parce qu'à force, on sait les pièges dans lesquels on risque de
Bien
tomber.
sûr.
Exactement. Mais c'est hyper intéressant, en vrai.
Et tout à fait.
C'est hyper intéressant. Mais l'IA, elle vient démultiplier ce phénomène de façon très importante parce que c'est encore plus rapide, c'est encore plus précis. C'est avec. Bon, donc ça décuple encore plus ce phénomène. Donc la relation pédagogique, elle est encore plus perturbée, à mon sens. Et puis du côté de l'enseignant, du coup, ça vient changer complètement. Alors, non seulement sa posture, mais aussi un peu son travail, parce que le plan du cours, il peut le faire générer, s'il le souhaite en tout cas, il peut le faire générer par l'IA. Donc au lieu de passer 3 heures à réfléchir à son plan de cours, bah, l'IA va lui faire en 10 minutes, et ensuite lui, par contre, bah, le temps gagné, il pourra faire plein d'autres choses. Il pourra faire générer, je ne sais pas moi, les quiz.
Oui, exactement.
Il va pouvoir les faire générer par l'IA, les quiz, hein, les QCM, etc. Donc, ça change quand même beaucoup le métier. Et puis après, il y a toutes les questions qui sont liées en tout cas, ce qui fait peur beaucoup, c'est la triche, c'est le plagiat, c'est la perte de raisonnement, la perte de capacité d'analyse, l'esprit critique, qui sont des questions passionnantes et qui viennent bousculer beaucoup, 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 beaucoup les équipes et qui viennent du coup. Oui,
Et
vas-y.
dans ce que tu vois, tu trouves que ça a changé quelque chose dans les parcours où l'ensemble des professeurs disent on fait un peu comme d'hab, quoi.
Pour l'instant, on est plutôt sur la deuxième option. Pour l'instant,
D'accord.
on est globalement, de manière générale, plutôt on fait comme d'hab. Il y a eu quelques petits changements de façon concrète, plutôt dans les modalités d'évaluation. Euh, dans, dans la, dans l'ingénierie pédagogique, j'ai pas encore vu de changement majeur. J'ai pas encore vu, par exemple, ce qui pourrait être très intéressant, d'intégration de l'IA dans les enseignements, dans les exercices, de faire en fait manipuler l'IA. Ça, j'ai pas encore trop vu ça. Alors, ce serait très intéressant. Par contre, effectivement, on commence à voir dans les modalités d'évaluation, avec un petit retour en arrière sur, ben, on remet des activités sur table, en fait. On remet des évaluations sur table pour être sûr qu'il n'y ait pas de triche. Alors, c'est sûr que ça peut être une solution. Il me semble qu'il faudrait réfléchir de façon un peu plus profonde, plutôt sur, en fait, qu'est-ce que je veux réellement mesurer?
Exactement.
Est-ce que je veux mesurer un produit fini? Dans ce cas-là, effectivement, je ne vais pas trop avoir le choix que de passer sur table. Ou est-ce que je veux mesurer des compétences? C'est-à-dire, comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à ce produit fini? Quelles sont les étapes qu'il a dû mettre en œuvre pour arriver jusqu'à ce produit fini? Même si ce produit fini a été généré par l'IA, en amont, il a quand même dû réfléchir à ses prompts, les formuler, ses prompts, retravailler le contenu de l'IA, et ça, on peut lui demander, en fait. Donc, moi, c'est ce
Sûr,
que j'appelle les, enfin,
exactement.
c'est ce qu'on appelle les traces d'apprentissage. Il faudrait qu'on demande à nos étudiants non seulement de nous fournir le produit fini, mais également de nous fournir toutes les traces d'apprentissage, la V1, la V2, la V3, le brouillon, les prompts, la bibliothèque de prompts. On lui demande de nous fournir la bibliothèque de prompts, les réponses et comment il a manipulé ses réponses. Et là, on est sur de la compétence, d'esprit critique, de synthétisation, d'analyse en amont pour comment je vais formuler mon prompt. Et ce serait très intéressant. Mais ça demande un travail de longue haleine. Donc, ça ne se fait pas en un an, évidemment. Donc, pour l'instant, là, on va dire que la réaction immédiate pour sécuriser un peu, ça a été de repasser certaines évaluations sur table, le temps de réfléchir un peu plus, de manière un peu plus structurée, à comment est-ce qu'on pourrait intégrer ces conditions-là dans nos pratiques d'enseignement et nos pratiques d'évaluation.
Là où tu as complètement raison, c'est qu'en fait, l'IA, il va falloir l'intégrer à un moment. Donc, il y a des retours d'expérience, tous ceux qui font beaucoup de rapports de stage, de choses comme ça, ne pas les faire avec l'IA, c'est absurde, quoi. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne s'approprie pas le contenu, on ne le corrige pas et on n'en
C'est
est pas
ça.
responsable. Et ce n'est pas du tout la même chose.
C'est ça, exactement. Tu vois, là, on est en train de bosser sur, puisque je dirige entre autres, le centre de formation des assistants de régulation médicale, et on est en train de bosser une nouvelle grille d'évaluation pour évaluer le dossier de sélection avant l'entrée en formation. Et dans le dossier de sélection, on leur demande un CV et une lettre de motivation. Et c'est essentiellement ces deux documents qui structurent ensuite notre évaluation. Et donc les formateurs, et je comprends, hein, leur crainte, ça a été, oui, mais du coup, on va évaluer des lettres de motivation qui ont été faites avec l'IA, ils vont
Absolument.
tous avoir des super notes. Et donc je leur ai dit, bah, c'est sûr qu'ils vont tous avoir des super notes, si nos critères, c'est, il n'y a pas de faute d'orthographe, la syntaxe est bonne. Et il y a une structure cohérente. Assure qu'ils vont tous avoir un sur 20 parce qu'effectivement, l'IA, elle va très bien le faire. Mais c'est qu'est-ce qu'on va aller chercher dans cette lettre de motivation?
Ouais, exactement.
Au-delà de la structure, on va aller chercher l'explicitation des expériences. Il ne va pas s'agir seulement de nous dire j'ai effectué un stage de 2 semaines dans un hôpital. Mais il va nous dire OK, qu'est-ce que ce stage vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez fait durant ce stage? Et ça, l'IA ne peut pas l'inventer. Il faut forcément que ça vienne du candidat. Et ensuite, derrière, en plus, on a un oral qui va nous permettre de faire à l'oral
Exactement.
exprimer. Et là, on va tout de suite le voir si c'était fait avec de l'IA ou pas. Donc, en fait, c'est nos critères d'évaluation qu'il faut retravailler, mais pas l'évaluation elle-même, à mon avis. Pas la modalité d'évaluation.
C'est pour ça qu'il y en a certains qui vont jusqu'à revenir à l'oralité en se disant il faut que le document soit professionnel, ça l'IA peut le faire, mais maintenant sans l'ordinateur, donc sans avoir à lire ce que l'IA répond,
C'est
qu'est-ce que tu
ça.
en as dit? C'est quoi, et là on voit s'il a compris ce qu'il fait.
Exactement. Ce qui
Et
est,
là.
alors, ce qui est pas si simple à organiser, encore une fois, quand il y a
Bien sûr.
200 étudiants dans la
Ah oui,
promotion, parce que organiser 200 euros,
bien sûr.
c'est énorme. Mais après, comme je le disais, il n'y a pas besoin que l'oral il dure une demi-heure. Hein.
Bien
Un
sûr.
oral de 5 minutes, si on sait très bien où on veut aller, en 5 minutes, l'étudiant, il va pouvoir nous justifier le fait que c'est bien son travail à lui et pas uniquement de l'IA à 100%. Mais voilà,
Alors c'est pour ça que justement, on leur apprend à travailler avec l'IA. L'IA leur apprend à pitcher, comme on dit.
voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, ça leur permet de se dire, mais je sais ce que je dis, et je le dis proprement pour le
Exactement.
socialiser.
C'est
Et
ça,
donc, en 5 minutes,
exactement.
tu as complètement raison, c'est réalisable.
C'est réalisable, bien sûr, en 5 minutes. Et là, on peut en faire passer, hein, du monde, hein, à coup de cinq
Absolument.
minutes. Donc, en tout cas, il y a un véritable enjeu d'inclure les questions éthiques, déontologiques et l'appropriation de ces outils au sein de nos formations et peut-être d'autant plus en santé parce qu'il y a d'autant plus d'enjeux, alors là pour le coup réglementaire et sécuritaire, de nos apprenants qui, si on ne les sensibilise pas comme il faut, vont aller balancer à ChatGPT des dossiers patients, pas anonymisés, avec le nom, le prénom, l'attention, la raison d'hospitalisation. Et là, on est dans une grosse problématique. Donc on a vraiment, nous, une responsabilité en tant qu'enseignants en santé de sensibiliser aux usages, mais notamment pour pas que ils aillent balancer des données patients pas anonymisées. Donc il faut qu'on s'en saisisse. Donc c'est en cours, hein, déjà bah, au travers de la fameuse compétence numérique dont je te parlais précédemment, bah, il y a toute une partie sur l'IA qu'il faut aborder. Et puis bah, nous, en tout cas, dans l'établissement dans lequel je travaille, on a structuré un pôle que je coordonne, donc le pôle innovation, ingénierie pédagogique, qui est en train de finaliser des chartes d'utilisation, un règlement d'utilisation, et puis tout un accompagnement, tout un plan de formation à destination des professionnels et des étudiants. Parce que pour que les enseignants puissent faire tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire sensibiliser les étudiants, intégrer l'outil dans leur formation, encore faut-il qu'eux-mêmes sachent s'en servir. Et ça, ce n'est pas encore le cas de tous. Donc, il faut d'abord commencer par les enseignants. Et une fois qu'eux, ils seront à l'aise, ils vont pouvoir effectivement former les étudiants. Et là, on a d'énormes disparités. On a des enseignants qui, parce qu'ils sont touche-à-tout, parce qu'ils sont habitués à l'informatique, qui sont déjà très, très en avance. Et puis d'autres qui s'en sont à peine servis. Donc là, il y a un vrai
Et
enjeu.
tu trouves qu'il y a, il y a de vrais freins au sur les, sur l'IA par exemple, où il y en a qui disent pas, moi je suis technophobe, pas de ça chez moi.
Ouais, non,
Ah ouais,
ouais, quand même,
d'accord.
ouais, franchement. Alors, est-ce que c'est propre aux formations en santé? Je sais pas, mais c'est sûr que nous, ça génère d'autant plus de, je dirais, d'angoisse, de, un espèce d'imaginaire fantasmé, mais pas dans le bon sens du terme, que, encore une fois, on est dans la santé, donc avec des enjeux de responsabilité énormes, des enjeux de jugement clinique énormes, des enjeux, comme je disais, de sécurité des données qui sont d'autant plus énormes que je pense que ça génère chez les enseignants d'autant plus de stress et de du coup de réaction, de recul, voire de refus de l'utiliser ou même d'en entendre parler. Donc c'est là où il y a un enjeu de notre part, dirigeants, responsables numériques, etc., de venir les sensibiliser à qu'est-ce que c'est l'IA, effectivement, de quoi il faut qu'on ait peur, parce qu'il y a des choses dont il faut avoir peur, hein, je ne dis pas le contraire, mais de quoi il
Bien
faut
sûr.
qu'on ait peur, et du coup, comment est-ce qu'on s'en prémunit. Mais par contre, qu'est-ce que ça peut ouvrir comme possibilité? Parce que de toute façon, c'est là. C'est là, qu'on les sensibilise ou pas, nos élèves, ils vont s'en servir. Donc, il vaut mieux qu'on les ait sensibilisés, et que du coup, ils s'en servent de façon critique, qu'on ferme les yeux, on fait les aveugles, on dit, nous, ça ne nous regarde pas, on ne veut pas ça chez nous. Et du coup, ils s'en servent de manière complètement anarchique.
Complètement.
Et là, c'est notre responsabilité. Enfin, on a une
Complètement.
responsabilité. Donc, mais oui, franchement, il y a encore de sacrées résistances de la part des enseignants. On a un peu deux extrêmes, en fait, je trouve, hein. On a vraiment les enseignants qui sont dans une résistance, c'est hors de question. Et à l'inverse, des enseignants qui s'en servent presque trop tous les jours pour un peu tout. On a un peu les deux extrêmes.
Ouais, c'est très bien. Au moins, on peut s'appuyer sur qui font beaucoup pour dire aux autres comment ça marche. Surtout que
Exactement.
ChatGPT, par exemple, est en train de tester ChatGPT S pour santé, où justement, parce qu'ils sont aperçus que ça représentait 8% de leurs demandes.
Ok, ben ça, tu
Toutes les
vois,
demandes.
je savais
Donc,
pas
c'est
du tout.
énorme. Donc, ça veut dire qu'ils sont dit, il y a un marché. Enfin, ils l'ont pas fait, bien sûr, pour le bien-être de chacun. Enfin, c'est comme ça qu'ils vont le vendre.
Non,
Mais derrière, il y a un marché. Et donc, il y a une vraie attente. Et donc, ça va permettre à tous les patients ben, de s'auto-diagnostiquer, d'apprendre plein de choses. Et donc, si après le médecin ben, ou la personne du monde de la santé ben, n'est pas sur la même planète, ben, il va se retrouver aussi challengé par les patients qu'on fait déjà un peu dans le. Mais moins
oui.
encore ce qu'on fait avec le web. Mais là, ils seront précisément. Avec tous les détails techniques, pour répéter. Donc, ça veut dire que ça va donner un autre rapport aux
C'est ce que
soins.
j'allais dire. Ouais. Le rapport, ben, en fait, c'est le parallèle, c'est le miroir de ce qu'on a dit sur les enseignants avec les étudiants. Le rapport, en tout cas, le pouvoir, il est un peu inversé.
Oui,
Là où,
absolument.
pendant très longtemps, le seul détenteur du savoir médical, c'était le médecin. Et le patient, bah, oui, docteur, vous avez raison, docteur, quoi, en gros. Hein. Bah,
Oui, c'est ça.
en formation, c'est pareil. Pendant très longtemps, le seul détenteur du savoir, c'était l'enseignant. Sans l'enseignant, à part aller passer 3 heures à la bibliothèque à lire un dictionnaire, j'avais besoin de l'enseignant pour avoir accès au savoir.
Absolument.
Le pouvoir, il s'est inversé, parce que maintenant, l'étudiant, il n'a plus besoin de l'enseignant pour avoir accès au savoir. Et effectivement, de la même manière, le patient, il n'a plus besoin exclusivement, il ne faut pas exagérer, mais il n'a plus besoin exclusivement du médecin pour avoir accès aux savoirs médicaux, entre guillemets. Donc, ça change le rapport, et c'est toujours, enfin, moi, je trouve que, effectivement, il faut jamais que ce soit dans l'excès, mais je trouve que c'est toujours bon quand le rapport s'équilibre. Dans toutes les relations, plus le rapport est équilibré, plus c'est sain, à mon avis.
Exactement.
Donc,
Et c'est d'ailleurs, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, puisqu'on arrive à la fin de notre émission, c'est le fait de dire que, y a ce qu'on appelle le shadow learning, c'est-à-dire l'apprentissage qui est caché. Et donc ça veut dire qu'effectivement, c'est un exemple sur TikTok, des femmes qui devaient faire des piqûres, donc étaient plus ou moins infirmières, je ne me rappelle plus exactement de l'article, mais c'est intéressant de le voir. Et finalement, regardez sur TikTok comment est-ce qu'elles devaient faire avant de rentrer dedans. Et donc, comme ça l'a rassurée. Et donc, bon, elle savait le faire, mais ça l'a
oui,
rassurée,
bien
phénomène
sûr,
de rassurance. Mais
ouais.
derrière, ce qui était génial, c'est qu'elle ne le disait pas, parce qu'elle disait, si je dis à la hiérarchie que je suis sur TikTok pour des trucs qui sont mon métier,
Ouais.
t'es nul, tu ne sais pas faire ton boulot. Et
Ouais.
donc, ça veut dire qu'en fait, les apprentissages sont cachés. Et donc, ça veut dire que la société n'organise plus, quoi, grosso modo.
Après, c'est hyper intéressant parce que, en fait, avant, au lieu d'aller sur TikTok, l'infirmière, eh ben, elle allait voir le protocole. Je sais que je sais faire, mais j'ai besoin de me réassurer qu'est-ce que c'est le
Exactement.
protocole. Finalement, c'est la même chose. Donc, pourquoi ce serait honteux d'aller voir sur
Bah
TikTok et pas d'aller voir sur le protocole? Par contre, ça pose, et là, c'est sûr, ça pose la question de la fiabilité et de la validité scientifique du contenu que j'ai trouvé sur TikTok ou YouTube ou Instagram,
bien sûr.
etc. Et ça, c'est un sujet que moi, je trouve hyper intéressant parce que même si j'ai arrêté, j'ai pendant quelques temps, de manière assez active, produit du contenu de vulgarisation, sur Instagram notamment. Et il y a tout un, c'est hyper intéressant, il y a tout un réseau de vulgarisateurs sur sur les réseaux, ça répète, notamment infirmiers avec des gens super, un
Certainement.
Homme en Blanc, Jérémy Guy, etc. Enfin, il y en a plein, mais qui s'attachent, eux, dans toutes les vidéos qu'ils produisent, à donner leurs sources. Tout ce qu'ils racontent est sourcé avec de la donnée probante, les références scientifiques. Donc là, aucun problème. Là où il faut, par contre, c'est du coup, c'est là où on revient à ce qu'on a dit au tout début, l'importance de former nos futurs professionnels de santé à savoir trouver, donc faire de la veille en
Ouais,
fait, et de la
exactement.
veille pertinente. Comment est-ce que je sais si le produit que je suis en train de regarder, il est valide, il est fiable, il est prouvé, quels sont en fait les critères assez simples, hein, les indices qui vont me permettre de assez rapidement savoir si je peux faire confiance à cette vidéo TikTok ou Instagram ou pas. Ça, il faut qu'on leur apprenne aussi, parce qu'il y a de plus en plus de contenu,
Absolument.
effectivement.
Et ce que
Ouais.
tu disais, c'était très juste avec les communautés de pratique
Voilà.
qui s'entraident, qui partagent, etc. Et qui derrière deviennent des marques, des influenceurs.
Complètement. Ah
On
bah
sait que
complètement.
lui, il est crédible. Donc, il est là. Donc, j'ai de la chance. Il va me redonner des formats qui me conviennent. Donc, ça m'intéresse. Et puis, si je n'ai pas ça, c'est-à-dire si l'institution ne fait pas son travail, bah, ça veut dire qu'à partir de là, bah, je vais voir au tout venant.
Ça. D'ailleurs, sur YouTube, hein, pour les vidéos YouTube, pour le coup, il y a pour les créateurs de contenu qui ont pu fournir les références de la vidéo, les justificatifs scientifiques, etc. Sous la vidéo, il y a un petit macaron YouTube, enfin une petite phrase qui dit qu'il s'agit d'un contenu de santé. Donc attention, contenu de santé. Mais ce contenu de santé, je ne sais plus quelle est la phrase exactement, mais entre guillemets accrédité par YouTube comme
Ah,
fiable,
très
valide et
bien.
compagnie. Et ça, on ne le voit pas sous toutes les vidéos, mais voilà, je pense notamment
Exactement.
encore une fois aux vidéos de Jérémy Guy. Ben, on trouvera systématiquement cette petite annotation sous ces vidéos qui garantissent la fiabilité du contenu.
Exactement, parce que les algorithmes aussi cherchent à faire de la qualité.
Ouais.
Algorithme, bien sûr, ce qui n'est pas la même. Mais derrière, s'ils identifient quelqu'un qui, dans la durée, produit régulièrement de la qualité, bah, ils le poussent parce qu'ils disent, voilà quelqu'un qui est
Ça.
intéressant pour ce que je veux faire.
C'est ça. Donc, moi, j'ai rien contre, effectivement, une infirmière, un soignant de manière générale, qui va aller regarder du contenu plutôt que sur le protocole, sur une vidéo TikTok par exemple, ou en tout cas les deux, idéalement plutôt les deux même.
Bien sûr.
Mais par contre, attention, il faut qu'on forme ces personnes, donc nos soignants qui sont déjà diplômés avec de la formation continue ou les futurs diplômés, qu'on les forme à ce regard critique. Comment est-ce que je m'assure que, alors qu'on parle, que ce soit de la vidéo ou un article en ligne ou peu importe, un blog, peu importe, comment je m'assure que ce dont je suis en train de me servir comme une ressource, comment je m'assure que cette ressource, elle est fiable?
ChatGPT a plus de 3 ans. Est-ce que tu penses que la formation dans le monde de la santé est un peu bureaucratisée, obsolète, ou tu te dis non, elle va rentrer dans les nouvelles formes de formation?
Non, je pense, honnêtement, ça prend souvent du temps parce qu'il y a une lourdeur administrative, il faut que ça passe par les ministères, la DGOS, que ça redescende aux régions, aux universités. Donc ça prend du temps. Mais honnêtement, on a quand même en général des formations en santé cette capacité à s'adapter au réel, aux innovations du réel. Parce que par contre, pour le coup, côté soins, donc pas côté formation, mais côté soins, les innovations, là, il n'y a aucun problème, ça va très très vite dans nos hôpitaux publics, pour le coup. Là, je parle notamment de Grenoble, parce qu'en plus, on est un centre scientifique hyper important en France, à Grenoble.
Alors pour
Les
les auditeurs,
innovations.
tu es de Grenoble.
Oui, pardon, oui, pardon. Pour les
Ouais,
auditeurs, je suis
non,
de
pas de
Grenoble,
souci.
oui, pardon. Et donc, on est quand même un pôle scientifique hyper important. Les innovations en santé à l'hôpital, elles arrivent très 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 vite. Donc, on a cette obligation, côté formation, de suivre à peu près le mouvement. Donc, on ne le suit pas aussi rapidement, mais on finit par le suivre. Donc, sur l'IA, j'ai aucun doute que ça va se faire, ça va s'intégrer. C'est déjà en train, en fait, de s'intégrer doucement, mais ça s'intègre. Donc, j'ai pas trop peur de ça. Il y a effectivement une lourdeur administrative et bureaucratique, c'est sûr, mais sur tout ce
Mais
qui est innovation.
est-ce qu'il n'y a pas des agitateurs d'idées qui sont là, qui se disent bah, tout seul, on ne me demande pas de le faire, je vais quand même me débrouiller, et finalement, il faut changer la culture et qui favoriseront le
C'est
basculement.
souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs, effectivement. C'est souvent comme ça que ça se passe. Là, je parle d'expérience, hein, mais effectivement, j'ai des collègues en tête même, hein, je ne les citerai pas, mais qui sont effectivement dans cette posture, qui vont très vite, qui eux font de la veille sur l'innovation et qui sont bien au fait de tout ça, et qui ont envie que ça change, qui ont envie qu'on sorte, parce que c'est encore le cas malheureusement, hein, qui ont envie qu'on sorte de la situation clinique au format PDF qui fait 4 pages, qui est absolument pas ni interactive, ni stimulante pour
Bien
l'étudiant.
sûr.
Et donc effectivement, ces agitateurs-là d'idées qui veulent produire plutôt de la vidéo pédagogique, du MOOC, de la simulation plus plus plus, de l'IA, de la réalité virtuelle, ils sont là, ils sont partout. Et eux, ils impulsent. Alors parfois, ils s'épuisent parce que
Bien
impulser
sûr.
tout seul
Ouais.
dans une équipe de 30, c'est pas toujours évident. Mais en général, ils trouvent des alliés, ils finissent par trouver des
Ouais,
alliés.
exactement.
Ils sont souvent très convaincants. Donc, ils finissent par convaincre les personnes. Ils en entraînent un, puis deux, puis trois, et petit à petit, ça se fait. Donc, ça prend un peu plus de temps que sans doute que dans d'autres formations. Sans doute, c'est fort probable, mais ça se fait. C'est sûr
Très,
qu'on est
très
moins
bien.
agile. C'est sûr qu'on est moins agile que des formations privées ou des formations en management, des formations en sciences économiques. C'est sûr qu'on est
Ou
moins
en
agile.
marketing.
Il faut le dire. Il faut le dire. On est beaucoup moins agile, mais on a quand même une capacité d'adaptation qui est énorme. On l'a vu lors du Covid, hein, où il a fallu qu'on adapte nos formations,
Oui.
et il me semble qu'on a très bien fait. Et que nos étudiants formés, nos étudiants diplômés Covid, comme certains les appellent, ils sont pas moins compétents que ceux d'avant ou ceux d'après.
Absolument. Donc très très bonne. On termine sur cet espoir-là. En tout cas,
Ouais,
c'était moi je trouvais ça très intéressant, passionnant, parce que c'était très concret et donc c'est ça qu'on cherchait à faire.
super.
Si les gens ont apprécié ce que tu as dit, comment est-ce qu'ils peuvent te joindre? T'es sur
Alors,
quel média?
ouais, bien sûr. Alors, ils peuvent me contacter sur LinkedIn. À mon prénom, nom de famille, donc Flavien Albaras, sur LinkedIn, me faire un message, je réponds toujours avec grand plaisir à toutes les sollicitations. Et en plus, je produis de la veille sur LinkedIn de moins en moins parce que j'ai pas trop de temps en ce moment, mais j'essaie de produire de la veille sur LinkedIn. Et après, sur Instagram, alors là, sur Instagram, sur un compte qui s'appelle Prof à l'IFSI, qui était justement le compte sur lequel je produisais du contenu de vulgarisation,
D'accord.
donc quand j'étais moi-même prof à l'IFSI, donc chez les infirmiers, ce que je ne suis plus actuellement, mais le compte existe toujours et je continue beaucoup moins qu'avant à publier des choses. Mais en tout cas, on peut me joindre par un de ces deux biais. Et puis ensuite, bah, comme tu l'as dit en introduction, tous les articles que je publie sur Todd Cursus, les archives sont disponibles. Et là, j'ai 4 ou 5 articles qui doivent sortir d'ici le mois d'avril-mai,
Très,
en
très
général
bien.
sur le thème de l'IA.
Flavien Albaras, merci beaucoup, c'était passionnant. Et donc, bah, n'hésitez pas à le solliciter, tous ceux qui veulent en savoir plus, ou avoir tous les contacts qu'il a donnés, etc. En message privé, c'est plus facile de les donner. Et donc, ça sera avec plaisir. Et puis, on se reverra dans de nouvelles aventures. Merci, Flavien.
Merci beaucoup Stéphane.
Bye bye.
À bientôt.